j'étais impliqué dans le combat parce que en 1974, j'ai travaillé pour la Citibank. J'étais le directeur de la Citibank à Kinshasa. Et lorsque Don King, le promoteur, est arrivé à Kinshasa pour promouvoir ce combat, il avait besoin que la Citibank établisse une lettre de garantie, c'est-à-dire pour garantir les paiements aux deux boxeurs. C'était une lettre de garantie de 5 millions chacun. Et en ce moment-là, 5 millions pour un combat de boxe, c'était un montant énorme. C'est du jamais vu. Alors, ils sont venus à la Citibank pour savoir, avec un monsieur qui travaillait pour le président Mobutu, ils sont venus à la Citibank pour savoir si on peut établir une lettre de garantie pour ce combat. Et moi, je leur ai dit que non. Notre succursale de Kinshasa n'a pas le pouvoir d'établir une telle lettre de garantie. Il devait se référer à New York. Et puis, Don King a dit, bon, comme vous parlez l'anglais, est-ce que vous pouvez nous aider à traduire le contrat qui nous lie avec le boxeur en français? Parce que le gouvernement congolais, le président Mobutu, aimerait avoir ce contrat en français. Donc, je les ai aidés à traduire le contrat. Et c'est là où, c'est à travers ces deux activités-là, le besoin d'établir une lettre de garantie et le besoin de traduire la garantie en français, c'est ça qui m'a fait impliquer dans tout le processus du combat.
Et
Et à
c'est sans
partir de ce
doute,
moment-là,
oui,
ouais.
et c'est sans doute cela qui a permis aussi et qui a motivé le président Mobutu à payer les 10 millions de dollars qu'il recherchait.
Oui, c'est ça. Il fallait garantir ça. Et quand ils ont obtenu la garantie, pas à Kinshasa, mais à New York, ils ont obtenu cette lettre de garantie et on a autorisé le combat d'avoir lieu.
Alors, et donc c'est Mobutu qui a payé les 10 millions.
Non, non, bon, c'est-à-dire, il y avait aussi des recettes, hein. Je ne sais, c'est le gouvernement congolais, pas Mobutu comme tel, comme individu, mais c'est le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais voulait à tout prix que ce combat ait lieu, parce qu'en ce moment, on voulait aussi promouvoir le pays, pour que les zaïres de Mobutu soient connus à travers le monde. Et ce combat a accompli cet objectif-là. En plus du combat, il y avait aussi un festival musical. Parce qu'il y avait les grands musiciens de l'époque, comme les James Brown, les B.B. King, les Fiana All Stars, les Maria Makeba, les Manu Dibango, qui étaient là. Il y avait un concert de 3 jours de toutes les grandes stars américaines qui étaient venues pour le combat, bien sûr, mais aussi pour faire un festival musical. Les gens ne parlent pas beaucoup de ce festival, mais il était là. Et c'est ça qui a fait que, même après que le George Foreman soit blessé, parce que le combat était reporté, hein. Le combat était prévu pour le 25 septembre. Il a eu lieu seulement le 30 octobre parce que George Foreman était blessé pendant l'entraînement. Là, il fallait reporter le combat. Mais le festival musical a eu lieu, a continué.
Et quand Mohamed Ali est arrivé au Zaïre, l'avez-vous rencontré personnellement?
Oui, bien sûr, à plusieurs reprises, parce que il voulait à tout prix rencontrer les gens, les foules. Il voulait rencontrer les autorités. On l'invitait partout. On organisait des fêtes pour lui, pour l'accueillir. Et il répondait. Ils allaient à tous ces événements-là. Et là, je les rencontrais. Il y a mon voisin de maison, un Américain, quelqu'un de l'ambassade américaine avait organisé aussi une réception. Il est arrivé, tout le monde s'est assis par terre parce qu'il voulait qu'on s'assoie par terre confortablement. Comme ça, il racontait des blagues. Alors, il racontait beaucoup de blagues, il faisait rire tout le monde, à tel point qu'on était un peu inquiet. On dit, mais il passe tout son temps à aller dans les festivités, aller dans le truc. Est-ce qu'il s'entraîne? On dirait que l'entraînement était devenu un truc secondaire. Il voulait d'abord connaître les gens, rencontrer les foules, les masses, aller voir les enfants, les orphelinats, visiter les orphelinats, faire des choses comme ça. Et on était vraiment inquiet. On dit, mais le monsieur, il ne s'entraîne pas.
Oui.
Alors, c'est seulement quand Foreman était blessé qu'on a construit un centre d'entraînement pour lui en scellé, c'est-à-dire à 40 km en dehors de Kinshasa. Et c'est là qu'il s'était concentré vraiment à l'entraînement. Mais avant ça, il était l'homme du peuple, donc il passait tout son temps avec le peuple.
L'homme du peuple. Monsieur l'ambassadeur Mpoko, je rappelle que Mohamed Ali est décédé à l'âge de 74 ans. Vous avez vous-même 74 ans. Le combat de sa vie a été organisé au Zaïre en 1974. Ça fait 374. Vous étiez aux États-Unis, monsieur l'ambassadeur, quand Cassius Clay a changé son nom en Mohamed Ali. Quel est le souvenir que vous gardez de ce changement de nom et pourquoi l'a-t-il fait?
Bon, il avait un message très clair. Il a dit que le nom de Cassius Clay ne l'arrangeait pas parce que ça lui rappelait le nom des gens qui étaient les esclavagistes. Les gens qui avaient acheté des nègres et qui les vendaient ailleurs, partout dans le monde. Donc, il ne voulait pas, lui, en tant qu'un être, en tant que noir américain, de porter le nom d'un esclavagiste. Il voulait un nom qui le libérait. Il voulait un nom qui, s'il allait où les gens portaient ce nom-là, il n'était pas discriminé. Il voulait se libérer de tout ça, de cette background historique d'esclavagisme, de discrimination, de tout ça, tout ça. Il voulait se libérer. D'où le changement de nom et le changement de religion. Il a, bon, la plupart des Noirs américains en ce moment, beaucoup de Noirs américains avaient changé de religion pour devenir des musulmans. Et l'influence de Malcolm X, de Farrakhan, ainsi de suite. C'était vraiment l'influence de Malcolm X en ce moment-là. Il était très influencé par Malcolm X. D'accord. Et c'est ainsi qu'il avait changé son nom.
Aujourd'hui, Mohamed Ali n'est plus. Quel est le souvenir que le monde devrait garder de lui, l'homme que vous avez rencontré?
Pour moi, cet homme est immortel. Pour moi, il n'est pas mort. Il vivra à jamais. Parce qu'il était plus grand que la boxe. Il utilisait la boxe, pas comme une fée en soi, mais comme un moyen pour atteindre cet objectif, qui était la libération totale du peuple noir. C'était ça. Donc la boxe, c'était un moyen à une fin. Donc, pour moi, Mohamed Ali est immortel. Il vivra à jamais à travers ses actes. Tout ça, on gardera toujours son souvenir. Et les générations futures apprendront toujours de moi. Parce qu'il était intelligent, il était généreux, il était beau à voir comme homme, comme être humain. Il était gentil, il était disponible. Tout ce que vous voulez dans un être humain, il avait ça. Donc, c'est quelqu'un qui vivra à jamais. Il n'est pas mort, il reste immortel, d'après moi.
Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur.
Et merci.
Merci, au revoir.